On a chanté l'amour de Dieu pour nous, et non seulement il nous aime, mais en plus il nous parle par son esprit, qu'on célèbre la venue de son esprit lors de la Pentecôte aujourd'hui, mais il nous parle aussi par sa parole. On a vraiment la chance d'avoir la parole de Dieu qui est une parole vivante et efficace, et on a aussi la chance d'avoir Manuel Rappold qui vient nous parler de la parole de Dieu. C'est lui qui est l'orateur du jour. Manuel, si tu veux bien me rejoindre. Alors, moi j'ai rencontré Manuel il y a assez longtemps, quand j'étais encore étudiant. Je faisais partie des GBU et lui faisait déjà partie de campus. Il est venu nous apporter un enseignement, et c'est un fidèle de chez campus. Mais j'aimerais ben te poser juste la première question pour situer un tout petit peu. Qu'est-ce que Campus pour Christ ?
Campus pour Christ, c'est une équipe de chrétiens motivés qui avancent ensemble pour servir Dieu et pour servir les chrétiens et les églises en Suisse romande. Enfin, notre équipe en Suisse romande, nous servons les églises en Suisse romande avec des ressources pour l'évangélisation et pour progresser en tant que disciples de Jésus.
Et comme j'ai dit, ça fait longtemps que tu es un Campus pour Christ. Récemment, tu as pris la coprésidence, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette œuvre missionnaire à Campus ?
Je trouve que c'est tellement beau d'avancer ensemble avec d'autres personnes qui veulent de tout cœur servir Dieu. Et pour moi, c'est aussi un plaisir de m'investir dans une équipe de maintenant aussi de plusieurs personnes plus jeunes qui ont rejoint notre équipe, de m'investir dans cette équipe pour que justement m'investir dans leur vie. Ceux qui servent, j'aimerais servir ceux qui servent, en fait. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais prier pour toi.
Merci.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Manuel qui vient nous la porter, la présenter. Je te prie de lui donner tes paroles, tes mots pour qu'ils puissent toucher nos cœurs, que toi tu puisses toucher nos cœurs à travers sa bouche. Et Seigneur, je te prie aussi de nous donner des cœurs ouverts, des cœurs réceptifs à ta parole. Amen.
Amen. Oui, nous fêtons la Pentecôte aujourd'hui. C'est une fête, c'est une belle fête, c'est une fête importante. C'est une fête qui nous rappelle justement la venue du Saint-Esprit. Ce matin, je vais parler d'une fête. Je ne vais pas prendre le passage habituel de la Pentecôte. C'est un autre passage où Jésus parle aussi d'une fête. Et peut-être vous allez vous demander au premier abord pourquoi j'ai pris ce passage-là pour un culte de la Pentecôte. Je suis persuadé, et je vais expliquer pourquoi par la suite, pourquoi ce passage-là, cette parabole, en l'occurrence, que Jésus a racontée à ses disciples, est pour moi liée de près avec le message de la Pentecôte. On va lire le passage ensemble. Est-ce qu'on pourrait l'avoir projeté, s'il vous plaît? Ça se trouve dans Matthieu 25, 1 à 13. « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Donc, ce passage parle aussi d'une fête. Là, en l'occurrence, c'est une fête de mariage. Tout ce passage tourne, toute la dynamique de ce passage tourne autour de trois éléments. Il y a une invitation qui est donnée. Il y a un temps d'attente avant l'arrivée du marié. Et il y a un enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que les lampes vont brûler ou non? Pour mieux comprendre, pour mieux saisir le message de ce passage, avant de regarder ces trois éléments plus en détail, j'aimerais d'abord jeter un coup d'œil aux acteurs et aux accessoires clés qui figurent dans ce passage. Au niveau des acteurs, le personnage principal est évident. Le marié, et le marié est Jésus. On vient de le chanter tout à l'heure, Jésus l'époux que nous attendons. Ce passage figure aussi dans le discours de Jésus sur la fin des temps et sur son propre retour. Et juste avant, il y a toute une discussion sur quand il va revenir. Et c'est là-dedans que se situe cette parabole. On parle du retour de Jésus, on parle de l'arrivée de l'époux. Les deux choses sont identiques. L'arrivée de l'époux, c'est le retour de Jésus. Deuxième personnage clé, il y en a 10, les jeunes filles. Je vous propose que pour ce matin, les jeunes filles, c'est nous. En regardant le passage, on voit très clairement que Jésus désire que ses auditeurs s'identifient à ces 10 jeunes filles. C'est ce qui se passe avec les 10 jeunes filles qui devrait nous interpeller, et c'est à partir de cela que nous devons tirer une leçon. Et cette leçon, Jésus la formule clairement, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce matin, les 10 jeunes filles, c'est nous. Fait intéressant, pour une réunion de prière juive, à l'époque et jusqu'aujourd'hui, il y a un quorum. Il faut au moins 10 hommes adultes présents pour qu'on puisse tenir une réunion de prière. Là, il n'y a pas 10 hommes, mais il y a 10. Pourquoi pas des hommes? Par rapport à Jésus, nous sommes tous féminins. L'Église de Jésus est l'épouse, et c'est lui qui est l'époux. Donc ça fait sens que dans cette parabole qui parle des noces de Jésus, de son retour, l'Église est décrite en forme féminine, représentée par ces 10 jeunes filles. Et le fait qu'il y en a 10, justement, peut nous faire penser à une réunion de prière, une réunion de culte comme ce matin. Nous sommes ici rassemblés parce que nous avons entendu l'invitation. Nous avons entendu l'invitation à être là pour la fête à laquelle Jésus nous invite. Mais dans cette parabole, il y a un message pour nous, une interpellation, et on va y revenir. Donc nous avons parlé des acteurs, il y a aussi les accessoires. Il y a les lampes. On ne sait pas exactement quel type de lampe c'est, il y a plusieurs propositions dans les commentaires. Ce qui est clair, c'est que la lampe, elle fonctionne à l'huile. Ce qui est clair aussi, c'est que ces lampes jouent un rôle essentiel pour ces jeunes filles. Autre fait intéressant, dans la culture du Moyen-Orient, à l'époque comme aujourd'hui, qui est une culture qui est beaucoup basée sur l'honneur et la honte, il est essentiel pour une jeune femme qui sort la nuit dans l'obscurité de porter une lumière. Pas seulement pour voir, des fois ce ne serait pas forcément nécessaire, mais pour être vue. Parce qu'il en va de sa réputation. Une jeune femme qui sort la nuit dans l'obscurité, si on ne la voit pas, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire éventuellement et avec qui. Et justement, dans cette culture où l'honneur et la honte jouent un tel rôle, le fait qu'il puisse y avoir soupçon est déjà un sujet de honte. Donc les lampes représentent quelque part l'intégrité de la réputation de ces jeunes femmes. Le fait qu'elles aient un bon témoignage auprès de leurs voisins dans le village. Pour que la lampe fonctionne bien, nous revenons au passage, pour que la lampe fonctionne bien, il faut qu'il y ait de l'huile. L'huile, dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, est le symbole le plus répandu pour le Saint-Esprit. Jésus lui-même, il est appelé le Messie, ce qui veut dire celui qui est oint. Oint de quoi ? Oint d'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Le Messie est celui qui est oint du Saint-Esprit sans mesure, contrairement à tous les autres. Déjà dans l'Ancien Testament, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, etc., qui ont reçu leur mesure du Saint-Esprit. L'huile représente, dans la pensée de Jésus et dans la pensée de ses auditeurs, le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Sachant tout cela, revenons donc à ces trois composantes qui font notre histoire. Il y a une invitation. Dieu nous invite à une fête. Quand j'étais jeune, en Suisse allemande, dans les flambeaux, etc., on chantait ce chant. Dieu nous invite à sa fête. Nous voulons y aller et le dire à tous ceux qu'on retrouve en route. Je n'ai pas trouvé ce chant en français, mais c'est le message de l'Évangile. La bonne nouvelle peut être formulée aussi comme ça. Nous sommes invités à faire la grande fête avec Dieu. Nous sommes invités aux noces de l'agneau. Ça va être la plus belle fête dans l'histoire. Et nous sommes invités. Et nous pouvons y aller. Deux chapitres plus tôt, dans Matthieu 22, il y a une autre parabole, également d'une fête de mariage. Donc c'est un sujet qui revient plusieurs fois dans la Bible. Et là, c'est un roi qui organise la fête du mariage de son fils. Et puis, tous les invités sont conviés, et puis ils sont occupés, plusieurs ne viennent pas. Et l'enjeu principal dans cette parabole-là, c'est, il y a une invitation qui est donnée, on peut y répondre ou ne pas y répondre, intentionnellement ou par négligence. Contrairement à cette autre parabole, celle-ci met l'accent sur les personnes qui veulent y répondre. En l'occurrence, nous sommes ici parce que nous avons entendu l'invitation de Jésus. Nous sommes ici parce que nous désirons faire partie de la fête. Justement, nous nous rassemblons en communauté pour des temps de prière en attente de ce moment-là. Comme les 10 jeunes filles qui sont là en tant que groupe, en tant que petite communauté, dans l'attente du marié qui va venir. Justement, qui va venir. Et nous, là, nous arrivons à la deuxième composante qui donne le suspense à cette histoire. Il y a un temps d'attente et on ne sait pas quand le marié va arriver. Juste avant, dans le chapitre 24, Jésus parle de son retour. Et il souligne le fait que personne ne connaît le moment. Et il dit que même lui-même ne connaît pas le moment où il va revenir. Donc, nous continuons dans la suite du même train d'idées. Quand est le retour de Jésus? Et cette parabole sous-entend que le temps d'attente pourrait être un peu plus long qu'on avait pensé. Et d'ailleurs, ça s'est accompli. On attend, l'Église de Jésus-Christ attend déjà depuis un moment son retour. Mais il va venir. Il va venir au milieu de la nuit. Il va venir peut-être au moment où, par la durée de l'attente, certains se sont déjà assoupis. La participation à la fête, elle est gratuite. Nous sommes tous invités. Mais, quand on est invité à un mariage, on se prépare. On se prépare en venant avec des lampes. Ou dans cette autre parabole, dans Matthieu 22, il y a l'un des conviés qui est mis à la porte par le marié parce qu'il ne vient pas convenablement habillé. Nous sommes tous invités, c'est gratuit, mais nous sommes appelés à nous préparer. Et cette préparation, comme le découvrent les cinq jeunes filles folles, elle n'est pas délégable. Nous ne pouvons pas nous reposer sur la préparation de quelqu'un d'autre. L'huile qu'avaient les cinq jeunes filles intelligentes ne suffit pas pour couvrir également les besoins de celles qui avaient négligé la préparation. D'où cet enjeu? Est-ce qu'au moment où viendra le marié, et on ne sait pas quand il vient, et il y a un temps d'attente d'ici là, est-ce qu'à ce moment-là, les lampes vont brûler ou non? Est-ce que ma lampe va brûler au moment où Jésus va arriver? Ce passage nous interpelle en disant le fait que je participe à des réunions avec d'autres personnes dans l'attente de celui qui va venir, le fait que je suis entouré de personnes qui ont des lampes qui brûlent, n'assure pas forcément que moi je serai prêt aussi. Le fait que je me retrouve avec d'autres qui ont une flamme dans leur cœur, qui portent cette lumière de Jésus, ne veut pas dire que automatiquement Jésus va me connaître moi aussi. Parce que des fois, on peut être, entre guillemets, réchauffé ou éclairé par la flamme de ceux qui sont autour de nous, alors que dans notre cœur, on se demande ce qui s'y passe. Et aussi, le fait qu'aujourd'hui, je sens un feu dans mon cœur pour l'époux qui vient, pour Jésus qui vient, ne me permet pas de devenir négligent. Cette flamme-là, elle a besoin d'être entretenue. Et cette flamme, elle ne vient pas de moi-même. L'huile représente le Saint-Esprit. Le message qui est donné là, restez donc vigilants, n'est pas une interpellation en vue de faire plus d'efforts. De dire je vais faire un grand effort pour être éveillé le moment où l'époux arrive. Je trouve réconfortant le fait que les 10 jeunes filles se sont assoupies. Celles qui seront admises et celles qui ne seront pas admises. Ce n'est pas une question d'effort, de volonté, de rester éveillé. Mais Jésus dit, veillez ou restez vigilants. Alors, veillez à quoi? Veillez à avoir continuellement une provision d'huile, une provision du Saint-Esprit. Parce que cette flamme qui brûle en nous, cette flamme du témoignage de la présence de Dieu, elle n'est pas notre œuvre à nous. Ce n'est pas ma flamme à moi. Ce ne sont pas, mais elle n'est pas le résultat de mes efforts ni de mes émotions. Cette flamme, elle m'est donnée. Elle habite en moi. Je ne suis que le récipient de cette flamme. Et cette flamme, c'est la présence de Dieu en moi par le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous alors accueillir cette flamme en nous, comment pouvons-nous l'entretenir? Il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus, mais pour aujourd'hui, je vais faire, à la joie de ma femme, une application très simple. Ma femme, elle est ma meilleure critique de mes messages, et souvent elle me dit « ton message manque de clarté dans l'application ». Et là, ce matin, quand elle a relu mes notes, elle m'a dit, là, c'est bien, c'est clair. Je crée un peu le suspense. Jésus nous le dit lui-même dans un autre passage. Je vous lis de Luc 11, le verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Après, il y a quelques versets que je ne lis pas. Et puis, à combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus nous exhorte à demander et à recevoir. En particulier quand il s'agit de la présence du Saint-Esprit en nous. Je ne vais pas lire les versets entre les deux, où justement où Jésus parle du fait que si on... Bon, en fait, je vais quand même les lire vu que j'y suis. Voilà. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc Jésus nous encourage à demander et à demander avec confiance. À avoir cette confiance que si nous demandons, nous allons recevoir. À avoir cette confiance que si nous demandons le Saint-Esprit, c'est bien le Saint-Esprit que nous allons recevoir et non pas un scorpion ou quelque chose d'autre de malsain. Jésus nous encourage à cette simplicité de demander et de recevoir. C'est si simple que ça. Quand on parle du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans nos vies, c'est ce que Dieu désire nous donner, mais il ne va pas le donner si nous ne demandons pas. Il ne s'impose pas, il se laisse accueillir. L'application est toute simple, mais le faisons-nous? C'est vrai? Avant de vous adresser la parole, ce matin et déjà hier et la semaine avant, en me préparant, j'ai dit « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que ce que j'apporte apporte la vie. » S'il n'y a pas le Saint-Esprit en moi, je n'ai rien à vous dire. Ce matin, en discutant à table avec mes enfants du message que j'allais apporter, et puis j'ai dit justement que je parlais de l'importance de demander au Père de nous remplir du Saint-Esprit. Et puis mon fils Michael, qui a 7 ans, il dit « Mais je prie ça tous les soirs !» Ça m'a touché. Et je me suis dit « Il a compris quelque chose, mon fils. » Moi, je ne le prie pas tous les soirs. Mais je crois que ce ne serait pas de trop de le faire. De reconnaître que cette flamme qui brûle en moi, elle n'est pas mon œuvre à moi. Je la reçois, je l'accueille, j'accueille jour après jour cette huile de la présence de Dieu en moi. Je ne veux pas être présomptueux en le tenant pour acquis et en négligeant de prendre soin de cette flamme qui brûle en moi. Parce que je veux être là. Je veux être à cette fête. Je suis invité. J'aime l'époux. Et je veux être là. Et je veux continuer à demander et à recevoir dans la confiance que quand je prie ainsi, je reçois. Je ne me pose pas des questions après, est-ce que j'ai été exaucé ou non ? Parce que je sais que Jésus l'a dit, demandez et vous recevrez. Mais je continue à demander. Et j'ai l'impression que moi personnellement, et peut-être je vous soumets ça comme application, peut-être vous aussi, vous pourriez y gagner en demandant davantage. Je crois que c'est l'un des enjeux fondamentaux de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une course et c'est un marathon. Il s'agit de tenir sur la durée. Et nous ne pouvons pas tenir dans la durée sans le Saint-Esprit, sans la flamme du Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. J'ai besoin de ce témoignage tous les jours. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui nous vient en aide. C'est celui qui est notre consolateur. J'ai besoin régulièrement d'être consolé pour ne pas tomber dans les pièges de la frustration, de l'amertume, du découragement. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous équipe pour témoigner de l'espérance qui est en nous. J'ai besoin de ça également, pour que ma lampe soit visible. Quand on parle du Saint-Esprit, on pense facilement d'abord aux dons de l'Esprit, aux manifestations charismatiques, peut-être même à une certaine culture charismatique qu'on peut aimer ou ne pas aimer, pour mon message de ce matin, c'est secondaire. Mais j'aimerais dire un mot d'avertissement à ce niveau-là, justement, à deux niveaux. Pour ceux d'entre nous qui baignent, entre guillemets, dans une culture charismatique d'Église où on parle facilement du Saint-Esprit, on le voit à l'œuvre partout, justement, cela peut devenir un piège et nous amener à négliger de demander humblement toujours à nouveau. Ou pour ceux d'entre nous qui justement n'aiment pas tellement ce type de culture d'Église, ça peut nous empêcher de demander en disant « Si je demande le Saint-Esprit, est-ce que je ne risque pas de devenir bizarre ?» Comme certaines personnes que j'observe. Pour moi, personnellement, ça a été un obstacle, un frein à une certaine période de mon cheminement chrétien. Et ce qui m'a libéré, c'est de réaliser que Jésus, il accepte autant les gens bizarres que non bizarres. Ce n'est pas un critère pour être disciple de Jésus, ni dans un sens, ni dans un autre. Et j'ai été amené à accepter qu'il y a dans le jardin du Seigneur parfois des drôles d'oiseaux. Et je le dis avec affection. Mais le Seigneur ne m'a jamais demandé à moi de devenir bizarre. Et c'est là aussi que je vois une application de ce passage que je viens de lire, où Jésus dit « Si vous demandez une chose, Dieu ne va pas vous donner une autre. » Le Saint-Esprit ne s'impose pas, la présence de Dieu ne s'impose pas, elle s'accueille. Et si je demande humblement la présence de Dieu et davantage de la présence de Dieu dans ma vie, Dieu ne va pas m'amener dans des choses que je ne veux pas. Et je crois que l'enjeu dont nous parlons ici est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ça ne se résume pas dans une question de culture d'Église. Et là, je parle aussi en tant que justement responsable de Campus pour Christ. Nous sommes une équipe où nous accueillons parmi nous des personnes d'Église, d'arrière-plan d'Église très différents, certains charismatiques et certains non. Et ça m'a aidé à comprendre quelque chose. C'est que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose de fondamental qui traverse les cultures d'Église. Notre ancien chef à campus en Suisse, il avait l'habitude de dire « Il y a les églises charismatiques et il y a les églises autrement charismatiques. » L'enjeu n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nos lampes vont s'éteindre. Ou nos lampes ne vont pas brûler. Recevoir le Saint-Esprit est un aspect non négociable et essentiel dans la vie chrétienne. Et donc, moi, pour ma part, je désire continuer à demander, continuer à recevoir, continuer à accueillir la présence de Dieu dans ma vie. Ne jamais la prendre pour acquis, mais en prendre soin. Et c'est ce que je vous propose de faire également. Et pourquoi ne pas le faire ici et maintenant ? Peut-être que vous avez déjà demandé ce matin. Ou peut-être pas. Mais si on lui demandait ensemble. Je vous propose quelques minutes ou quelques instants de silence pour que vous puissiez dire au Seigneur ce que vous désirez lui dire. Et après, si ça vous dit, je vous invite à vous lever et qu'on demande ensemble que le Saint-Esprit nous remplisse à nouveau pour aujourd'hui. Qui souffle dans cette flamme qui est en nous. qu'elle brûle de manière plus intense et plus pure encore davantage. Voilà, petit moment de silence. Si vous êtes partant, à ce qu'on prie ensemble, dans le sens que j'ai décrit avant, je vous invite à vous lever maintenant. Père, nous avons entendu l'invitation au mariage de ton fils, l'époux. Jésus, celui que nous aimons. Nous voulons y répondre. Nous l'avons entendu et nous voulons être là. Et nous sommes conscients que la persévérance dans l'attente ne peut pas être l'œuvre de nos propres efforts. Nous sommes conscients que nous avons besoin de toi, que toi-même tu renouvelles toujours à nouveau le feu de ton esprit en nous. Et en accord avec ta parole, Père, nous te demandons de renouveler en nous la présence de ton esprit. Et nous accueillons l'exaucement de cette demande parce que nous prions avec foi. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos vies. Si ça vous dit, étendez vos mains dans cette attitude de recevoir. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit, pour ta présence précieuse en nous. Nous t'accueillons avec amour, avec grand respect, dans la foi. Merci que aujourd'hui tu nous remplis et que tu veux continuer à nous remplir jusqu'à la grande fête.